Salut meuf, je te sers un truc?
Je veux bien un petit café, s'il te plaît.
En plus, il faut que je te raconte une histoire.
Oh, waouh.
Coucou Pauline.
Coucou Lisa.
Ça va?
Ça va et toi?
Je sors de chez la psy.
Et c'est un bon mardi.
Directement, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous raconter toute ma séance d'une demi-heure et ça commence maintenant.
C'est le jingle.
J'adore, je voudrais qu'on fasse des jingles meuf pour tous les moments de notre vie en vrai.
Oh, ça serait trop
fabuleux.
Marrant.
C'est comme les questions incongrues.
Ah, c'est un jeu qu'Isa a créé, mais bon.
Ouais, c'est dans tout autre débat. Comment vous allez les gars? Vous datez, encore une fois. Juste nous, on revient une fois et après on repart.
Ouais.
Voilà.
Bah, c'est juste que là, vous voyez, il commence à faire froid. Ça y est, Noël approche et là... Tous nos triggers sont allumés.
C'est un peu ça. C'est comme les lumières de Noël.
Mais oui.
Dès que le sapin s'allume, les triggers aussi. Ça va avec.
Toutes les angoisses, les triggers, les machins. Non, en vrai, on est ici pour vous parler de quoi, Lisa, aujourd'hui?
Bah, on n'a pas encore trouvé de titre là à l'heure où on vous parle, mais on veut parler des étiquettes et de la réputation, des choses qu'on nous colle. Alors qu'on n'a rien demandé
du
sur la tête.
Des autres.
Ouais. Pour cette introduction, c'est dit qu'on allait se poser une question. On t'a déjà collé une étiquette, Pauline?
Mais tellement.
C'est vrai.
Mais de nombreuses étiquettes, laquelle choisir? Vraiment, il y
en
a beaucoup.
Par laquelle commencer?
C'est ça. Non, oui, je pense qu'en fait, déjà, je pense que c'est un truc assez humain de coller des étiquettes aux autres parce que ça nous rassure de pouvoir catégoriser les gens. Donc, je pense que tout le monde l'a subi. Ou l'a fait, parce que là, nous, on va parler du fait qu'on l'ait subi, mais je pense qu'on l'a aussi fait, on croise des gens, rencontre des gens, tout de suite, bam, étiquette.
Exactement.
Mais pour revenir à ta question, oui, on m'a collé beaucoup d'étiquettes, et je pense que ça a beaucoup joué, et de toute façon, c'est ce qu'on s'était dit toutes les deux, dans mon développement et dans l'image que j'ai maintenant de moi-même, et que j'ai eue tout au long de mon adolescence et tout. Et au final, au fur et à mesure, on apprend à essayer de s'en détacher.
De toi. Comme Pauline, j'en ai eu beaucoup aussi. Et en vrai, celle qui m'a le plus marquée, je sais plus en quel âge j'étais. Je pense que je devais être en 6e ou en 5e, en vrai, un truc comme ça. Et c'était un peu l'époque, enfin en tout cas dans mon collège, je sais pas si pour tout le monde c'était comme ça ou pas, mais nous c'était un peu genre ça y est, t'as un petit copain, une petite copine, machin, t'as des petites amourettes à droite à gauche et tout, mais il se passe rien parce que bien évidemment t'as 11 ans, un truc comme ça, et sauf qu'en fait moi j'étais avec un garçon à ce moment-là, et ce garçon-là il s'avère que je l'avais embrassé à la sortie du collège, à la demande générale, et en fait lui m'a roulé une pelle, vraiment juste le terme rouler une pelle, je trouve
ça
que c'est
dégoûte.
Horrible. T'imagines vraiment les deux langues là et ce mouvement que vous voyez pas, mais de lave-linge dégueulasse. Enfin, des enfants de 11 ans qui s'embrassent avec la langue quoi au final. Et donc, moi j'ai un peu subi l'information en me disant bon bah, dac, on est parti là-dessus, mais allons-y. Et sauf qu'en fait, à partir de cet épisode là de ma vie, on m'a un peu collé donc cette première étiquette de. Je suis la meuf qui roule des pelles au collège. Et donc c'est sûr que maintenant avec mon regard d'adulte dessus, je suis là mais MDR, c'est genre une étiquette nulle, tu vois, qu'on peut te mettre. Mais ça a engendré énormément de répercussions derrière sur les relations que j'ai avec les gens. Genre après tous les mecs qui venaient me demander ouais est-ce que tu veux sortir avec moi machin, je disais oui à tout le monde dès le collège. Parce que eux ils étaient là ouais bah on veut être avec elle parce qu'elle roule des pelles, moi j'étais là c'est parce qu'ils m'aiment, mais en fait non. Mais je l'ai compris que plus tard. Même dans mes relations amicales, je sais qu'à un moment donné inconsciemment il y a un switch qui s'est fait en mode je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me... J'étais pas encore rendue au stade d'harcèlement, ça s'est venu que plus tard, mais à ce moment-là, il y avait deux catégories de personnes, ceux qui subissaient et ceux qui justement collaient ses réputations, ses étiquettes et tout, et moi je me disais, ok, il faut que je sois avec les gens qui collent ces trucs de merde, ces idées de merde, comme ça au moins j'aurais pas d'autres étiquettes qui vont venir surenchérir le truc que j'ai déjà. Et sauf que du coup, ça a faussé et ça a biaisé complètement toute ma vision des amitiés, qu'est-ce que je recherchais chez mes potes, et toutes mes relations amoureuses, on va dire, même si bon, on parle pas d'amour au collège, mais mes relations en tout cas avec les garçons. Voilà,
la vache.
Pour rentrer dans le vif du sujet directement, mais après il y a d'autres anecdotes qui vont suivre.
Ce n'est qu'anecdote au final, ce podcast.
Mais voilà, mais du coup voilà un peu la toute première étiquette qui m'a qui m'a marquée et qui a engendré beaucoup d'autres derrière qui ne font pourtant pas la personne que je suis aujourd'hui, maintenant que je suis plus grande.
Mais c'est fou comment, de toute façon, quand t'arrives au collège, etc., ça devient, bah là c'est un tout autre sujet, mais pour situer, tout de suite t'as une meuf qui va faire des trucs avec un mec, ça va être la meuf, la réputation, ouais. Ça va être tout de suite beaucoup plus facile, et nous c'est à nouveau des années et des années de thérapie, d'analyse et de reconstruction pour se dire non mais j'ai le droit d'avoir une sexualité libre, d'être libre et de pas avoir peur du coup des hommes, ouais. Et juste de l'image qu'on va avoir de moi, de ma sexualité, de ma liberté de femme, c'est quand même dingue.
Et toi?
Moi, je pense que l'étiquette la plus, la première qui me revient à l'esprit, c'est en primaire, parce que j'étais dans une école d'un petit village, enfin on n'était pas beaucoup, je pense on devait être, je sais pas, 18 max par classe, et j'étais la première à avoir des parents divorcés. C'est totalement bateau dit comme ça, mais moi mes parents ils ont divorcé, et s'en est suivi des conséquences de visites d'avocats, de juges, de gardes, de machin, de problèmes. Et donc moi forcément enfant de CE1 dont mes parents, enfin dont les parents commencent à divorcer, moi je pleurais en cours parce que je sais, j'étais super mal, j'étais pas bien du tout, et en fait j'ai commencé à subir un peu le regard des gens où on me regardait un petit peu en mode qu'est-ce qui lui arrive à celle-là, et un petit regard un peu de pitié, les profs
ils venaient sûrement qu'est-ce qu'elle fait là celle-là c'était la même intonation,
c'était ça. Putain, mais ça fait des raccourcis maintenant, ça devient dans mon vocabulaire, c'est même plus genre je fais des blagues, c'est toutes mes phrases ne sont qu'expressions, c'est super chiant,
c'est que des refs.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Mais oui, et du coup, bah, les profs venaient me voir genre après l'école et tout, pour me demander « ça se passe bien ?» Bah non, ça se passe mal.
Mais il y a une élève qui pleure au fond de la salle. Évidemment que oui, ça se passe mal.
Ça se passe pas bien. Et du coup, au fur et à mesure, en grandissant, j'ai eu de l'anxiété sociale, j'en parlerai plus après. Mais donc, le fait d'avoir le regard des gens sur moi, une espèce de soit de pitié, soit un truc, je trouvais ça très intrusif en fait, parce que... Tu vois, même si les maîtres, les maîtresses, quand t'es en primaire et tout, ils font pour ton bien, je trouvais ça giga intrusif. Je me rappelle d'une scène où j'étais pas bien et j'avais envie de sortir de la classe parce que je sais plus, je pense que j'allais chez mon père le soir alors que j'étais chez ma mère et j'avais oublié des trucs et tout. Et la maîtresse, elle avait fait « On arrête le cours, Pauline, explique-nous ce qui se passe.
» Mais pardon.
Ouais.
Mais quelle horreur.
Et j'étais là, non mais je pleure parce que je vais chez mon père et ma mère. Et en fait, je me suis catégorisée en mode « Je suis une enfant à problème. » Et à partir de ce moment-là, ça m'a pas lâché la veste et toutes les actions que j'ai prises, toutes les décisions, tout ce que j'ai fait après en évoluant, c'était que en ayant cette étiquette de moi-même, en étant je suis l'enfant à problème, celle qui pleure.
Et de toute façon, les actions que je fais, elles sont justifiées par ce truc-là.
C'est ça, c'est, j'ai une famille où ça se passe pas bien et toute l'école le sait, alors que tous les autres ça se passe très bien et je suis un peu le vilain petit canard de la classe qui a des problèmes familiaux, tu vois, genre comme tu vois dans les films, t'as toujours l'enfant un peu en mode ah bah lui, ça, on sait qu'à la maison ça se passe pas très très bien. Et bah c'était ça, et j'étais là en mode je veux plus que personne pose les yeux sur moi, donc j'ai fait de l'anxiété sociale pendant toute ma vie et encore maintenant.
Mais est-ce
je refuse qu'on me regarde.
Est-ce que c'est quelqu'un un jour qui t'a dit ouais, t'es un peu l'enfant problématique, on va dire, ou est-ce que c'est toi qui justement dû à la réflexion de ta patronne, je déconnecte du monde du travail dans lequel je ne suis pas,
ça sur LinkedIn tous les jours,
j'en peux plus. Est-ce que oui, c'est dû à la réflexion de ta maîtresse, genre Pauline, qu'est-ce qui se passe machin, ou toi tu t'es dit ok, je suis la seule élève à pleurer, ou est-ce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a verbalisé le t'es une enfant à problème?
Je pense que c'est un peu tout, parce que je pense au sein de la famille, de ma famille, c'était vraiment en mode la pitié, genre mes tantes etc. Je m'étouffe. Elle venait souvent nous voir et elle disait oh, c'est vrai que vous avez pas de chance avec ce qui se passe et tout, parce qu'en plus vu que c'était un divorce très très problématique, mes parents, c'était vraiment ah mais c'est vrai qu'il se passe ça, c'est pas facile, c'est dur pour vous machin. J'étais là en mode bon bah d'accord, c'est dur pour moi. Super, merci à tous, je sais, je vis la chose, merci. Et après je pense que je me suis aussi auto-mise dans cette boîte là de bah je suis telle personne en fonction du regard des autres. Et c'est encore une étiquette avec laquelle j'ai du mal à évoluer, parce que c'est, tu sais, forcément dans ton estime de toi, si tu te vois comme quelqu'un qui est forcément associé à divorce, problème, truc pas fou, bah t'as du mal à dire bah, je mérite des belles choses dans ma vie et je peux réussir à être giga heureuse et tout. Donc ça, c'est en ce moment, c'est en plein dans mon cheminement personnel de me détacher de ce bagage là et de réussir à me dire c'est, ça fait pas de moi qui je suis maintenant en fait.
Ouais, de ouf.
Voilà.
Et du coup, au niveau famille, c'était la prochaine thématique qu'on s'est dit d'aborder. Ce qui est rigolo, on en parlait juste avant avec la petite Pauline, on n'a pas du tout la même place toutes les deux au sein de nos familles respectives. Et pour autant, on se rejoint quand même sur l'étiquette qu'on a l'impression qu'on nous a collée.
De fou. Bah, en plus, on n'a pas la même construction familiale. Dans le sens, toi, tes parents sont ensemble, t'as une famille plus nombreuse.
Ouais.
Moi, j'ai que ma sœur et des parents divorcés. Et je suis la plus grande, t'es la plus petite.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment les opposés sur toute la ligne. Vraiment. Et comme tu dis, au final, on se rejoint dans ce truc de le caractère. Vous devez avoir ça, vous aussi, dans votre famille. Mmh. La personne, vous vous dites, cette personne, c'est la personne qui est énervée, qui est en colère.
Vraiment.
Tout de suite, t'as les réflexions de, non mais toi et ton caractère, mais elle, on peut pas lui dire ça parce qu'elle s'énerve.
Quand j'étais petite, on m'a toujours dit, tu fais du boudin, machin. Mais c'était genre vraiment le mot boudin qui m'énerve. Je ne veux plus jamais l'entendre parce que je me renfermais très vite sur moi et j'arrêtais de parler. Et ça, ce truc-là, je l'ai cultivé de ouf, de passer de... un enfant effectivement qui peut être en colère et du coup va se renfermer sur lui-même, à aujourd'hui ma famille, je suis incapable de parler vraiment de mes émotions. Ça va être souvent des trucs en surface, sauf quand je pète un plomb, notamment le jour du burn-out, où là effectivement j'ai exprimé.
Vous voyez que j'exprime.
J'ai hurlé mes émotions, mais autrement... Je sais que c'est un truc qui m'a collé à la peau et qui me poursuit toujours aujourd'hui, et j'ai beaucoup beaucoup de mal à parler aux gens et surtout à ma famille de mes émotions, et c'est un truc qui est en confrontation aussi avec forcément mes frères et sœurs, parce que Pauline disait du coup qu'on est une grande fratrie, on est 18. Et tout ça pour dire que du coup on est 4 dans ma famille, et c'est une famille qui est semi-recomposée, parce que j'ai un beau-frère, un demi-frère, une demi-sœur.
J'ai un beau-frère.
J'ai aussi un beau-frère, mais c'est autre chose. J'ai un demi-frère et une demi-sœur, et on a un écart qui est assez énorme. Et donc, du coup, moi, je suis vraiment... Genre, on a 20 ans d'écart. Donc, je suis vraiment le bébé. Donc, d'un côté, auprès de mes frères et sœurs, j'ai un peu l'étiquette de la petite chouchoute, machin. Mais en même temps, j'ai ce truc-là de... Elle est solitaire, elle est jamais là.
Dans sa grotte,
elle dit pas ce qu'elle ressent.
Elle fume des clopes.
Voilà. Moi, je fume des clopes, je bois des bières, selon ma mère. Et je ne parle pas.
C'est horrible.
Un peu. Mais donc... ça me blesse moins oui. que ça me blessait, tu vois, avant. Du coup, j'avais envie d'entretenir ce truc-là. Bah, de toute façon, vous pensez que je suis en colère, donc je vais être en colère, donc je vais arrêter de parler, tu vois.
Bah oui, parce qu'en plus, au final, à force de te le répéter, au lieu d'aller te dire, bah, si t'as besoin de parler, on est là, le fait de te faire une remarque, ça t'aide pas du tout à faire le contraire. Ouais. Au plus, on va te dire un truc, tu vas t'ancrer dedans, mode d'accord, d'accord, bah, tu vas agir en fonction. Moi, je sais que ce qui m'a le plus traumatisée, c'est... Enfin, moi, c'était l'inverse de toi. Du coup, je parlais. Genre, vraiment, je ouvrais la boca. Plus grande que n'importe qui dans la famille. Genre, vraiment, je disais... Tu vois, il y avait un problème, un secret de famille. On me disait, chut. Moi, j'allais en repas de famille. On me disait, voilà ce que j'ai appris. J'étais un peu en rébellion. Mais ça, je l'avais déjà dit dans un podcast. Bah moi, je suis la plus grande. Donc, c'était l'inverse. C'est ma sœur qui subissait mes crises. et j'étais vraiment en mode... Je disais tout ce que je pensais. Et en fait... Je pensais sur le moment faire les choses correctement et j'en suis persuadée que je faisais les choses correctement.
Ouais.
Mais on m'a toujours renvoyée à ma place d'enfant en me disant « Mais t'es qu'une enfant, tais-toi et t'es trop méchante et tu parles trop. » Et je sais que j'ai une de mes tantes qui me le répétait tout le temps en me disant « Mais là là, mais comment tu parles ?» Et ça m'a traumatisée.
C'est horrible.
Elle était vraiment... Mais elle disait à ma mère « Mais t'as vu comment elle parle ?» Mais j'étais pas insolente avec ma mère. Genre juste, je parlais correctement et je disais ce que je ressentais. Et c'était, mon Dieu, ça choquait toute la tribu, quoi, de Dana. Genre...
Je m'attendais pas. Ah, oh, la putain de vallée, oh.
La vallée, là-haut. Aïe, aïe, aïe.
Donc ça choquait toute ta tribu.
Ça choquait tout le monde et je pense que j'ai du coup perdu énormément d'estime en moi et dans ma parole. J'arrivais plus à parler en public alors que j'avais vraiment zéro problème à parler devant tout le monde. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles, des chorés, et on a tellement appuyé sur le truc de tu prends trop de place qu'en fait, en grandissant, j'ai voulu devenir limite invisible. Donc prendre la parole en public à l'école ou quoi, je tremblais, j'étais trop mal, je faisais une crise d'angoisse avant de passer à l'oral, au milieu des groupes, enfin ça c'est tout ce qui est l'anxiété sociale, je me sentais trop mal, je fais une descente d'organes dès que je dois voir plus de 2 personnes en même temps. Je dois me préparer 6 fois à l'avance. Et en fait, c'est vraiment cette étiquette de « t'es sympa, mais chut, tais-toi. Sois pas vraiment quelqu'un. » Genre vraiment, n'hésite pas à être un être humain qui est un objet et une poupée. Et on s'occupe de toi, mais toi, n'existe pas trop.
Oh là là.
Voilà.
Et tu sais, ça m'a fait penser à un moment donné, je sais plus ce que tu disais, mais j'avais oublié cette information-là dans ma tête, de maternelle. En fait, c'est la première étiquette qu'on m'a collée, c'est pas « elle roule des pelles ». C'est une autre maternelle, meuf. Mais qui est lunaire, où en gros, comme tu le sais, je suis angoissée. Comme vous le savez, je suis angoissée. Et ça depuis genre toute petite, ce qui fait que quand j'étais petite, je pleurais vraiment mais en continu. J'arrivais à l'école, je pleurais, je repartais, je pleurais. Toute la journée, je pleurais, la nuit, je pleurais. Et il y a un jour où j'étais pas allée à l'école, je sais pas, je devais être en grande section, j'en sais rien. Et sauf que la maîtresse... Elle, tu sais, t'as les parents et tout qui arrivent à la fin de la journée. Et la maîtresse, elle dit à une des filles de mon âge « Elle était bien la journée sans la petite pleurnicheuse, non ?» En parlant de moi. Et sauf que bah ça, les darons, ils étaient déjà là. Les darons, ils ont entendu l'information, ils l'ont rapporté à mes parents. Mes parents me l'ont rapporté ensuite, je sais pas si c'était le soir même ou tu vois, des années après, je sais plus. Et sauf que ce truc-là, je sais que inconsciemment, ça m'a bloqué en mode... T'as pas le droit de pleurer de trop, tu vois. Donc genre toutes les fois où j'avais envie de pleurer et tout, les 3/4 du temps, je m'enfermais dans ma chambre. Sauf que mes parents, ça les énervait que je m'enferme dans ma chambre pour pleurer. Parce que du coup, comme je parlais pas de mes émotions, ils me retrouvaient juste assise au bout de mon lit, genre en train d'étouffer un sanglot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'arrive plus trop à pleurer, tu vois. Ouais, c'est horrible.
Bah parce qu'en fait, t'as fait une muraille, vu qu'on te l'a mis en mode c'est un reproche.
Ouais.
Bah t'as fait une muraille en mode bah d'accord, c'est-à-dire que c'est un défaut. Alors que c'est tellement pas un défaut que ce soit de pleurer, de s'exprimer, parce que là je reprends nos deux cas du coup.
Oui.
Les gens qui te font penser que être trop, que t'es trop, que ce soit trop en colère, trop radical, trop à pleurer, trop à t'énerver, c'est des gens qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle et qui ne peuvent pas se dire peut-être que cet enfant, nous on parle là pour les enfants mais ça vaut pour les adultes, est littéralement en pleine souffrance.
Bah oui.
Et a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre.
Mais de ouf, c'est censurer tes émotions en vrai. C'est horrible.
C'est totalement horrible et souvent il y a des gens, des fois je vois, parce qu'à un moment je sais plus pourquoi je m'étais intéressée à tout ce qui est éducation et tout, j'ai pas d'enfant mais ça m'intéressait. Et je voyais des gens qui faisaient l'éducation positive et tout.
Oui.
Et ils se prenaient plein de critiques parce que si un enfant hurlait... Le, parents derrière essayaient de ne s'énerver pas. Mmh. Et parce qu'en fait, c'est la pire réaction qu'on puisse faire à quelqu'un. Et ça, c'est, ça vaut même pour les couples, pour tout. C'est en fait, si vous êtes dans un échange avec quelqu'un et qu'il y a une forte émotion, ouais, faites un pas de côté et dites-vous, cette personne, je vais pas lui coller une étiquette de « Ah, elle s'énerve trop, elle est trop impulsive » ou « Elle est trop colérique ». Bah non, cette personne, elle sait sûrement pas bien gérer ses émotions. Et du coup, ça pète d'un coup, d'un seul, et elle ne maîtrise pas forcément la chose. Et ce n'est pas un défaut. Mmh. Voilà.
T'as trop raison. Et du coup, en parlant d'école, justement, des autres, etc., en arrivant au lycée...
Oh la vache.
Les réputations, là, elles prennent un...
Un tout autre tournant.
Ouais, c'est ça. Elles sont tout de suite beaucoup plus violentes.
Ouais.
Beaucoup plus.
Et elles sont très sexualisées, de toute façon.
Ouais, pour, oui, de ouf.
Donc, t'as tout de suite les réputations. Je sais pas si t'avais ça à partir au collège. Je crois que j'ai déjà raconté, je sais plus. Moi, j'avais des mecs qui tenaient un fichier Excel des meufs qui avaient leurs règles.
Mais bien... Ah, de leurs règles. Putain, je pensais que t'allais dire le classement de des plus belles, machin, de celles qui ont les plus gros boobies et tout.
Dans mon collège, c'était qui a eu ses règles.
Ça va pas.
Et il y a une meuf, elle s'est
mais
fait
harceler.
Mais
comment ils savaient leur menstruation?
Mais parce qu'il fallait dire au mec, donc patriarcat nique ta mère, fallait dire au mec, est-ce que, enfin, il demandait est-ce que vous avez déjà eu vos règles, et si t'étais bien réglé, les mecs, ils étaient ok, c'est bon, te bully pas. Et il y a une meuf qui avait pas ses règles en 3ème, il l'avait bully pendant 4 ans. Juste parce que la meuf, elle avait pas ses règles. Et pareil, des meufs, parce qu'elles avaient pas de sein, c'était planche à pain. Des meufs parce que moi par exemple j'avais beaucoup de poitrine, c'était bah t'as des gros boobs, du coup je mettais des écharpes toute l'année, enfin juste pour faire l'aparté de, déjà t'as le collège où c'est tellement ancré physique, coucou,
n'hésitons pas,
et où tu t'as tellement la réputation qui est axée même pas sur qui t'es mais sur ce que tu renvoies comme image. Et ça, je trouve que c'est déjà une phase qui est tellement déstabilisante. Et après, c'est là que t'arrives au lycée et tout et fait qu'aggraver la situation.
Mais le truc de la poitrine, putain, j'avais oublié ça au collège parce que c'est horrible. Parce qu'en plus, quand t'es une meuf, c'est là où tu te, bah, où ton corps change, finalement. Et là où très peu de mecs ont fait encore l'apologie de la haine envers les hommes. Mais là où les mecs, rares sont les moqueries que tu peux avoir sur un changement de voix. Enfin, eux qui mutent,
tu vois. Au pire, c'est genre, ah, t'es fin, ah, t'es musclé.
Oui, non, mais ça où... Si, t'as des mecs quand même qui peuvent prendre ta rive parce qu'ils sont petits, ils ont pas encore eu leur croissance. Effectivement, t'as des trucs chiants. Mais en tant que meuf, c'est exactement la même chose que t'as dit. Moi, on m'attaquait sur mes boobies. Et du coup, je les cachais. Juste moi qui ai du mal à dire ça, sur ma poitrine. Sur mes roploplos. Sur mes deux baluchons. Et faut que j'arrête, meuf. Je vais trouver plein de surnoms parce que ça m'a mal à l'aise.
Espagnol, mes gnagnas. Je sais pas comment
on dit. Les gnagnas. Oh, mais de churros.
Mais de toute façon, on trouve des noms pour tous les trucs qu'on n'aime pas prononcer.
Oui, non, mais c'est ça. Mais pareil, moi, j'ai ma poitrine qui est venue rapidement. Et pourtant, je ne considère pas, si je me regarde moi toute seule, je ne considère pas avoir une poitrine opulente ou quoi que ce soit, tu vois. Mais t'en as tellement qui étaient omnubilées par ça et à me dire, mais t'as des seins énormes. Et le terme énorme, j'ai l'impression que je dégueulais mes seins de partout. Je me retournais, il y avait mes uns qui étaient déjà là avant, tu vois.
Je me dis, les meufs, tu sais que moi j'avais exactement pareil, je mettais des brassières trop petites pour écraser mes boobies parce que les hommes, enfin les garçons, parce que c'est pas des hommes à cet âge-là, ils se permettaient de te regarder, d'être en mode ah, mais tu mets un décolleté aujourd'hui. Mais genre, je te jure, si je revenais arrière, mais je foutrais des calottes.
Ah, mais meuf, si forte, mais si.
Et ça, franchement, les meufs qui nous écoutent, si vous avez des difficultés à dealer avec votre corps, que vous avez des problèmes, on va dire, où vous êtes en pleine prise de conscience en mode « Mais mon Dieu, ça, mon corps !» Surtout, ne vous en voulez pas. Moi, à un moment, je sais que j'étais trop en colère en me disant « J'aurais dû répondre ça ou ça au mec, ça se fait pas, c'est pas sympa, pourquoi je prends conscience de ça que maintenant ?» Mais parce qu'en fait, on peut pas. Déjà, on est trop jeune. Quand ça se passe, on n'est pas éduqué pour, on n'a pas les cours pour, et il n'y a pas l'éducation de notre génération qui a suivi à ce moment-là. Donc surtout, feel free de note être énervé contre vous-même.
De ouf, meuf, de ouf.
Self-care reminder.
Et du coup, le lycée pour toi, c'était comment?
Moi, le lycée, c'était chaotique. J'ai fini ma terminale en HP. Genre, j'ai fait un séjour d'une semaine tellement j'étais au bout. Non, mais je te jure, en mode d'épuisement, pas en mode un truc gravissime, mais d'épuisement d'anxiété. En fait, j'ai tellement été anxieuse, et j'ai cumulé... notamment en terminale, qui a été la pire année de ma vie entière.
La vache.
Et avec le bac, la pression et tout, à la fin, j'ai eu mon bac, j'ai fait « Allez, let's go, dodo, Atarax, tout ce que tu veux, laissez-moi. »
Ma vie pour l'Atarax.
Laissez-moi tranquille. Et non, en vrai, sans rire, moi, en terminale, c'était pas ouf. parce que j'ai fait deux lycées du coup, et je suis retournée dans le lycée en terminale où il y avait tous les gens de mon collège. Et c'est le moment où j'étais à ce moment-là en plan cul avec... je sais même pas si je le qualifie d'ex en fait, c'est trop problématique avec, pour moi-même à chaque fois, parce que ça a duré genre 3 ans et quelques, mais bref, un mec quoi. Et en fait, j'ai subi vraiment le regard des autres et le regard des mecs et le jugement. Mais là vraiment c'était, je te juge en tant que personne au plus profond de ton être, de qui tu es et de ce que tu représentes. Et je faisais rien, je faisais chier personne, mais il y avait des meufs, même des mecs. Je pense les mecs c'était parce qu'ils voulaient pas que je sois... Enfin tu vois tout de suite t'as une meuf qui est un peu libre dans sa vie, dans sa sexualité, qui fait ses choix et les hommes n'aiment pas. Donc t'avais beaucoup des mecs qui étaient en mode bah les putes, les machins, ouais, tu te fais baiser. Je sais même pas si on va se faire censurer parce que je dis vraiment tous les termes, je m'en fous. Et donc forcément ça donne pas une belle image de toi-même, t'as l'impression d'être une femme objet. Et ensuite t'avais les meufs qui elles te jugeaient vraiment en mode ah tu fais ça. Ah mais tu vois, mais de toute façon, un tel... Enfin, tu sais, ils commentaient ma relation et en même temps, ils savaient très bien que ça allait me revenir aux oreilles et me faire du mal.
Ouais.
Et en même temps, c'était que toxique, tout était toxique, tous les jugements qu'on allait avoir sur moi, l'avis, le regard, tout mélangé. Moi, ça m'a fait péter un câble. Genre, tout ce qui me constituait était prétexte pour avoir un commentaire. C'est même horrible. Après, genre par exemple, moi, tu vois, je kiffe Insta, donc je mettais des photos déjà quand j'étais en terme et tout. J'aimais bien, ça me faisait kiffer. T'avais des gens, leur problématique de la journée, c'était « Pauline met des photos sur Instagram ».
Mais qu'est-ce qu'ils sont chiés quand même.
Et c'est fou, c'est fou. Vous ennuyez quand même. Énormément. En plus, si tu veux, fais-le, c'est un réseau free. N'hésite pas à le faire.
Mais je sais pas si c'est de un ennui profond, de la jalousie maladive, je saurais même pas qualifier le truc.
Ah vraiment. Mais c'est catastrophique, et je sais que bah, du coup, le mec que je fréquentais à ce moment-là, il a commencé à avoir le même jugement sur moi, enfin il commençait à faire des petits pics en mode « je te juge sur ça, sur qui t'es ». Et au bout d'un moment, en fait, t'arrives juste à un stade de saturation et t'as juste plus d'estime de toi. Ouais. Parce que t'es en mode « je suis un paillasson, littéralement, tout le monde se permet de me critiquer, de me regarder, de me juger sur tout ce que t'es ». Et au final, bah, toi, t'es là et tu te sens comme une giga merde.
Ouais, et puis, t'as même plus la force, en vrai, à un moment donné, de te battre. Je pense que les premières semaines où t'entends ça, t'es là, oh non, mais c'est n'importe quoi, non, non. Enfin, peut-être, t'essayes un peu de défendre ton honneur, on va dire, d'un moment. T'as une fatigue qui est tellement intense et une certaine dissociation aussi qui se crée de, mais il y a tellement de gens qui sont en train de penser ça de moi, de dire ça de moi, que ça se trouve. Et c'est horrible. Et je pense que c'est là où ton cerveau, il te dit, on stoppe directement, tu fais une pause de X temps et après tu trouves un système D, tu prends la fuite et tout. Et
mais puis ça crée des comportements giga problématiques. J'en parlais hier avec une copine à moi, où on était dans le même lycée à la même période. Par exemple, nous c'est tout débile, mais Instagram, on a dû faire une thérapie de retour vers Instagram. Moi j'osais plus poster une story, j'osais plus poster une photo parce que je me disais, les gens vont dire, mais elle fait que poster sur Instagram.
Oh là là.
Et ça m'a, mais vraiment, ça m'a traumatisée au stade où à un moment j'ai vécu 3 mois à Barcelone, j'osais pas mettre une story, alors que je kiffais, moi j'aurais aimé, parce que je me disais, mais les gens vont penser que je fais ça, que je dis ça. Enfin là je parle d'Insta, c'est vraiment un truc futile, mais c'est pour expliquer comment après dans les actes et dans ton quotidien, une petite phrase, un petit reproche d'un jour une personne lambda, mais tous tes actes, enfin ça peut être tout con, ça peut être oh tu trembles à l'oral, mais plus jamais de ta vie tu passes à l'oral en fait, genre
de ouf.
C'est un truc de fou. Et toi alors, ton école, collège, lycée, raconte-nous tout.
Le lycée c'était franchement une petite partie de plaisir qui a été rythmée en 2 harcèlements différents, mais dû à ce que je disais au début de... ce truc-là qu'on m'avait mis en tête au collège de pas la fille facile parce que bah, j'avais pas couché avec les garçons à l'époque, donc c'était pas ça, mais un peu celle qui dit oui, on va dire, entre guillemets, et du coup qui a fait que bah, j'allais que vers des gens qui semaient un peu la zizanie justement en créant ces réputations-là, j'allais que vers eux, sauf que ça ce sont des harceleurs en fait ces gens-là. Et ce qui fait que bah, moi j'étais absolument pas naturelle avec eux et qu'eux se rendaient bien compte que j'étais très mal à l'aise, donc ça a été la première phase du harcèlement par mes potes, donc très agréable. Et en parallèle, comme j'avais pris l'habitude de dire oui du coup à des garçons en me disant c'est que comme ça que je vais me sentir aimée, en disant oui à des mecs qui ont cette image là de moi machin, je me suis retrouvée dans une relation avec un mec que j'aimais pas du tout, mais une relation hyper longue, en plus de ça on parle pas de juste 2 mois, genre vraiment relation longue. et qui s'est juste traduit à ce moment-là par moi qui tombe vraiment amoureuse pour le coup, d'un mec qui me plaît vraiment et là je commets l'irréparable à cet âge-là qui n'est autre que la tromperie.
Oh my god.
Chut, le T-word, celui dont on ne prononce pas le nom, mais lâcher ma veste, j'avais 15 ans, on m'a pas faire chier avec ça franchement. Et sauf que je commets ce truc-là qui, à l'époque, prend des proportions mais monstrueuses, auxquelles moi, j'en ai pas conscience au moment où ça arrive, parce que c'était la première fois que j'étais amoureuse de quelqu'un, c'était la première fois que j'avais l'impression d'avoir des copains un peu sympas, j'étais à « oh là là, c'est des émotions, le bonheur, que je ne connais pas, enfin c'est fou, tu vois ». Et sauf que s'ensuit de ce truc-là, donc tout le monde est au courant, notamment mon groupe de potes. Donc la deuxième vague d'harcèlement arrive où là, c'est Elisa, t'es une salope, t'es une pute. On m'a insulté de sorcière une fois. Il y a une de ses meilleures potes, au mec avec qui j'étais, qui m'a dit « t'es une sorcière, tu l'as corrompue ».
Mais ça va pas,
mais j'ai 15 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Ok, j'ai
peut-être pas bien. Il y a des gens qui prennent vraiment des mots au hasard en mode « ce sera toi ».
Non mais c'est ça, et même de m'insulter de salope, enfin genre, ça va pas, c'est même ma première relation amoureuse, enfin... Donc bref, et du coup, est arrivée cette nouvelle étiquette de sorcière. Ça n'a aucun sens en vrai quand j'y repense.
Mais c'est vrai, parce que sur le moment tu te dis ça n'a aucun sens et tout, mais au final, ton inconscient il retient.
Ah mais bien sûr, mais moi j'étais persuadée d'être la pire merde au monde quand j'étais au lycée, parce que quand je vous dis harcelée, on parle pas d'une ou deux personnes, on parle d'un groupe de 15 personnes, et il y a pas très longtemps je faisais une soirée avec des copines qui étaient dans le même lycée que moi à l'époque, et elle me disait « bah non mais meuf, oui nous on te connaissait pas du coup à l'époque, et bah oui t'avais cette étiquette là de la meuf qui a trompé pour rester un peu polie, tu vois, sauf qu'aujourd'hui, enfin on est très copines et elle...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Enfin, elles m'ont jamais insulté de quoi que ce soit, encore heureux quand même, mais ce qui fait que bah forcément moi j'ai gardé ce truc là en tête de je mérite presque mon sort parce que j'ai fauté une fois, mais non, vous ne méritez pas votre sort, enfin bref, c'est démesuré.
L'erreur
en vrai
est humaine de 1 et de 2 à 15 ans, les gars.
Non mais ça va pas, enfin genre qu'un vieux gars de 40 balais trompe sa femme avec qui il est marié depuis 30 ans, là oui d'accord, on peut se permettre d'être un peu énervé. Une petite meuf qui a 15 ans, qui a rien demandé, qui est juste là, j'ai eu mes règles l'année dernière.
Je suis amoureuse de deux garçons. Ah, lequel plus que l'autre, enfin, ça va.
Faut arrêter de prendre des proportions énormes, là. Et donc, ce qui fait que, du coup, voilà, ce truc-là, ça m'a collé à la peau pendant tout mon lycée. Donc, en terminale, suite à l'harcèlement, j'ai changé, du coup, de lycée pour vivre sereinement.
On a voyagé.
J'ai changé deux fois de collège, deux fois de lycée, pour les raisons d'harcèlement. Mais sinon ça va les gars. Mais bref, et arrive du coup l'étape d'après pour revenir dans un truc là cette fois-ci plus positif, on va dire, la première étape qui est la prise de conscience qui s'est traduite de la même manière pour toi et moi.
Ouais, c'est que on s'est toutes les deux barrées,
ouais.
Parce que je pense quand tu as un trop plein d'un truc, surtout du regard des autres, etc., à un moment tu captes, enfin je sais pas toi comment ça s'est passé, moi je sais que j'étais à mon summum de l'anxiété, parce bah on est toutes les deux pareilles sur ça avec Lisa, des personnes très très anxieuses, très stressées, sujettes aux phobies, aux tocs, aux anxiétés nocturnes, tous les pires trucs, vous les mettez, vous secouez, c'est nous. Et...
oui.
C'est sur TikTok la trend.
Oui.
Et du coup, je pense que moi, à titre perso, il y a un moment, je suis arrivée au summum de mon anxiété où je me disais, je pense que si je reste comme ça, je suis paralysée dans ma propre vie. Et du coup, j'ai fait le choix de quitter ma ville, enfin de quitter Rennes, pour aller faire mes études à Bordeaux. Et j'ai pris mes clics et mes claquettes et j'ai dit je me casse. Et j'avais plus aucune attente de la vie. Et ça m'a fait le plus grand bien de... Enfin, c'était très stressant, très déstabilisant. J'ai passé, je pense, 3 ans... Enfin, il y a eu le Covid à un moment, donc on va dire 2 ans, à faire des crises d'angoisse là-bas. Mais les crises d'angoisse que je faisais là-bas, au moins, elles me permettaient d'apprendre à me connaître, alors que les crises d'angoisse que je faisais ici, elles étaient juste à cause de personnes extérieures à moi qui me déclenchaient mes pires triggers et me faisaient perdre confiance en moi, me donnaient même plus envie de me promener dans le centre-ville. J'osais pas me promener démaquillée, j'osais pas aller en boîte ou traverser les rues où il y a des bars, parce que je me disais, s'il y a des gens que je connais, je sais qu'il y a des regards qui vont tourner, je sais qu'il y a des rumeurs qui vont circuler sur moi, je sais qu'il va se passer des choses et que je vais pas aimer. Ouais. Et à un moment, faut couper le truc et se dire, là, pour mon bien, je me casse, je me reconstruis, ça va être super désagréable sûrement, mais on peut que être mieux. Et maintenant, avec le recul, même si c'était désagréable sur le moment parce que j'étais loin de ma famille, j'avais pas une thune et que j'étais dans un milieu qui était pas du tout le mien, je regrette absolument pas et je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie et je le recommande à tous les gens qui se sentent vraiment très enfermés, très anxieux dans leur cercle de vie actuel.
De ouf.
Et toi, madame ?
Bah, exactement comme Pauline, j'ai aussi déménagé. Vraiment, juste notre solution. Ça se trouve, il y a d'autres solutions.
Ouais, hein.
N'hésitez pas à nous envoyer sur Instagram si vous avez des solutions. On les partagera en story.
Nous, on bloque les gens et on déménage.
Moi, ma solution, c'est vraiment la fuite.
Bah, moi, c'est pareil. Et juste unfollow tout le monde aussi.
Oui.
Parce que en vrai, aparté, tous les gens qui sont pas trop sains, etc., pour vous, vous forcez pas à garder des liens avec eux, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, les gars. Parfois, les gens, ils vont jamais vous recalculer dans 5 ans. Vous coupez.
Ça sert à rien qu'ils aient accès de toute façon à votre vie.
Ouais.
Ça ne sert à rien.
Que ce soit, comme on disait, sur les réseaux ou dans la vraie vie, vous forcez pas à voir des gens qui vous apprécient pas et que vous appréciez pas en retour. Ça, c'est que vous faire du mal et vous trigger en continu.
Ouais, de ouf.
Tu disais.
Ça me fait penser. Je me suis dit, il y a vraiment les gens là qui collent toutes ces étiquettes, qui font les réputes machin. Hashtag les harceleurs. J'ai dit hashtag. Je veux dire aka les harceleurs.
Hashtag
harcèlement.
Ça y est, t'as 25
ans. Quelle meuf, putain, quelle angoisse. Non, mais tous ces gens-là, c'est eux qui n'évoluent pas. Genre, je me souviens, il y avait une meuf qui faisait partie de mon groupe de potes en seconde, celle qui m'avait harcelée, là, qui était une giga connasse. J'ai tellement envie de donner son blaze. Tellement elle, je pense que jamais ma haine s'éteindra. Mais pour autant, je n'irai pas la harceler. Et je n'irai pas dire, genre, aller toquer à sa porte, lui dire des trucs, machin. Mais genre, je l'avais croisée il y a, je sais pas, peut-être 3-4 ans, un truc comme ça. Donc ça remontait entre il y a 4 ans et ma seconde, c'était quand même un bel écart entre les deux. Et je l'avais juste vue, elle était dans son bus, elle s'était assise à la fenêtre et elle m'a regardée, elle m'a fait un giga fuck par la fenêtre. Ça faisait 6 ans que je l'avais pas vue et j'étais meuf.
Genre,
tu sais même plus comment je m'appelle, je suis sûre, tu vois, genre ça n'a plus de sens. Bref, voilà, c'était venu à part, je me suis dit, mais
c'est la violence. En fait, ces gens-là, je pense que ça te crée forcément un comportement de fuite et d'angoisse et d'anxiété sociale, de, tu sais, quand on dit on a besoin d'être vachement seul pour se protéger et tout, c'est que en fait de vivre du harcèlement, c'est tellement quelque chose qui touche limite ta vie. Enfin, moi je m'en rappelle, j'ai été harcelée une fois, je crois que c'était au collège. Les meufs, elles avaient voulu me brûler dans des toilettes. Je me rappelle, elles avaient écrit. Mais je sais, les meufs, je te jure.
Mais toi aussi, t'étais une sorcière.
Mais oui.
Le bûcher.
Mona Cholet, ma vie. Non, mais je sais plus ce qui s'était passé. Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois qu'elle m'emmerdait. Enfin, je sais pas, elle faisait de la merde. Et ma mère, elle était allée voir une des meufs en disant, écoute, je vais me battre avec toi.
Ma fille, je te brûle.
Et moi, j'avais dit, maman, tu sais que dans le monde de l'école, c'est la pire idée. Elle dit, je m'en fous. Mais c'est sympa. Le geste était sympa, mais ça m'a causé un peu des problèmes. Parce que du coup, le lendemain, elles ont voulu me brûler dans les toilettes. J'ai dû m'enfermer dans les chiottes. Et une meuf, elle a écrit pute. Pauline égale pute avec sa clé sur la porte.
Dac.
Et l'autre, elle a pris du PQ, elle a brûlé. Et elle a dit, si je le fous sous la porte, elle va s'enflammer. J'étais en mode, là, on est vraiment...
Mais tu n'es pas fait d'essence, tu ne vas pas prendre feu comme ça.
J'étais alors là, on passe un cap, on veut vraiment ma mort, physiquement. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, tu crées forcément une distance avec les gens dans tes relations, de, vous êtes tous super malades, essayez d'être sympa.
Mais donc, et du coup, oui, donc c'est là où tu prends la fuite.
Que du coup, la fuite,
voilà. Donc là où Pauline est partie à Bordeaux, moi je suis partie à Tours pour 2 ans. Et là où ça, je sentais quand même que j'allais mieux, j'étais quand même dans un truc où je savais pas du tout qui j'étais. en dehors de tous ces gens qui m'avaient mis bien évidemment des trucs dans la gueule, qui m'avaient collé X étiquettes, qui m'avaient créé X réputation. Et du coup, t'arrives vraiment à une phase de ok, reconstruis-toi, mais à partir de tu sais même pas quoi. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression qu'il fallait justement que j'aille dans un nouvel environnement, que je rencontre des nouvelles personnes, limite pour essayer de récupérer un truc chez l'un, un truc chez l'autre, machin, et de moi me façonner un truc, je ne savais même pas si ça me correspondait ou pas. Donc d'un côté, je pense que ça m'a quand même sauvé d'une ambiance horrible dans laquelle j'étais avant, mais de l'autre, on était quand même sur un moment un peu dissociatif, quoi. Mmh. Très très particulier.
Parce que c'est qui tout double, en fait, quand tu quittes ton milieu aussi toxique soit-il, et que tu passes sur un truc totalement hors de ta zone de confort où t'as zéro repère, mais c'est... Enfin, c'est horrible, mais presque ton milieu un peu toxique avec un entourage problématique, avec des gens qui te jugent, qui te collent des étiquettes, etc. J'allais dire des arêtes.
Ce serait hyper emmerdant. T'imagines ? Ah, de poisson.
Saumon. Charlie. Mais oui, donc quitter son environnement, au final, c'est quelque chose de très perturbant. Peut-être un jour, on pourra faire un épisode sur...
les déménagements.
Ouais, déménager et tout, ouais. Changer de ville. Mais je pense que pour se découvrir soi, c'est une des clés que je trouve les plus pertinentes, surtout est englué dans que... En fait, quand on s'est créé en étant qu'une projection, c'est-à-dire la projection de ses parents, en mode les parents qui voient que à travers toi tes qualités ou tes défauts, les autres qui te disent toi t'es une bonne élève, toi t'es une mauvaise élève, toi t'es ci, toi t'es ça, au final, ta personne n'est autre que... le jugement des autres.
Mais oui, et tout ce qu'on a dit de toi, qu'on a imaginé toi, c'est censé être toi, finalement.
C'est ça, et toi, t'es là en mode, t'es qui ? Bah, ma mère, elle m'a dit que j'étais comme ça, ouais. Mon père, il m'a dit que j'étais comme ça, un tel, il a dit que j'étais ça, et donc ça doit me constituer, ça doit être la vérité absolue, alors que c'est tellement pas vrai, et c'est tellement faux, et à l'opposé total, enfin, ça se trouve, un truc qu'on va avoir pointé du doigt chez vous en disant, ça, c'est ton étiquette, t'es comme ça, en fait, ça se trouve, c'est une de vos qualités. Moi, je sais que le nombre de personnes qui m'ont pointé du doigt en disant tu dis trop ce que tu penses et tu parles trop, maintenant je sais que pour les gens sains avec qui je suis, c'est une qualité que je puisse parler de manière, on va dire, je sais pas comment expliquer.
Régulière.
Non, que je
que t'exprimes tes émotions.
Ouais, j'exprime et je communique facilement sur ce que je peux ressentir. Et j'aime parler avec les gens et je vais travailler dans la communication. Donc au final, c'est devenu un de mes atouts.
Ouais, de ouf.
Et donc au final, on va vous pointer des défauts et des étiquettes parce que les gens, sûrement, soit ils sont jaloux, soit ça leur renvoie à des choses qu'ils n'ont pas.
Ouais.
Et il n'y a qu'en étant seul que vous pouvez faire le tri de toutes ces infos-là et vous en détacher.
Ça aide de ouf, c'est sûr et certain, de se détacher complètement physiquement de ton environnement familial comme de l'environnement dans lequel t'as baigné depuis tes 0 ans. Après, je sais pas si c'est la solution ultime, sans doute qu'il y en a d'autres, je sais pas, mais en vrai, en tout cas, nous, franchement, en vrai, c'est sûr que déménager physiquement aide énormément quand même à déjà la première étape qui est la prise de conscience, la deuxième qui est la déconstruction totale de tout ce qu'on t'a mis en tête de t'es comme ça, ah mais toi t'es grave une fille nanana, ah mais toi truc machin, ça t'aide de ouf à te déconstruire. Et après, bah, du coup, la dernière phase qui est la reconstruction avec toute l'introspection qui vient dedans de bah, ok, en fait, moi, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je recherche aussi chez les gens ? Qu'est-ce qu'ils sont, quels sont mes points forts, même mes défauts aussi. C'est important de connaître tes défauts.
De fou.
Parce que sinon, si toi, tu te connais pas personnellement et quelqu'un dit, ah, mais toi, t'es pécuniaire. Non, je voulais donner un défaut, j'ai pensé à pécuniaire.
Mais si, mais dis le défaut, une meuf travel... À un moment, je datais un mec, il avait une pote à lui qui était une ancienne pote à moi, et on se parle plus, et elle avait le seum, je suppose. Elle est allée dire, ouais, non, Pauline, c'est une meuf qui est opportuniste. Mais au pire, trouve des défauts qui me correspondent. Et aussi, j'ai eu des trucs en mode, non, mais toi, de toute façon, t'es une meuf à mec. Enfin, les gens, ils sont là. Il y a un mec, un jour, en date, il m'a dit, je pense que t'as pas ton permis. Je pensais que t'avais pas ton permis.
Mais
t'as une meuf qui a pas son permis.
Mais comment tu peux avoir le visage de quelqu'un qui n'a pas le permis B? Mais comment tu décris physiquement quelqu'un qui n'a pas le permis?
Parce que ça allait dans toute la logique de l'étiquette de toi, tu montres ça, donc j'analyse ça de toi, j'en déduis ça de toi.
Ouais.
Donc c'était, toi t'es une petite fille à papa, t'es pété de thunes et t'as pas ton permis. Alors, excusez-moi. Excusez-moi.
On va remettre l'église au milieu du clocher dans lequel le prêtre est. forcément, tous les trucs qu'on va dire, ça a une connotation qui est négative, donc tu vas dire, ok, c'est ça mes défauts, mais non, enfin, arrête.
C'est hilarant, ça. Mais non, c'est la fin du podcast. On arrive après toutes ces prises de conscience et toutes ces images négatives qu'on a de soi. Le but, c'est de se découvrir, comme disait Lisa, de connaître ses valeurs, ses qualités, ses défauts, tout ce qui s'ensuit. Mmh. Et ça, en fait, c'est le travail d'une vie et qui, pour moi, ne passe pas sans couper et sans faire du tri avec certaines personnes de sa vie,
ouais.
Avec, mais que ce soit des personnes, des comportements, des attitudes, des pensées, parce que toutes ces petites étiquettes qu'on vous a collées, c'est devenu vos croyances limitantes, les gars. C'est-à-dire que vous sentez sûrement comme une merde, vous pensez que vous êtes de telle ou telle... Enfin, que vous êtes telle personne, que vous avez mauvais caractère, peut-être que vous vous dévalorisez en vous disant « Non, mais de toute façon, moi, je suis trop comme ça, je suis pas assez comme ça. »
Ouais, tu te bloques à faire des trucs en disant « Bah non, parce que je suis pas... »
Je suis pas assez ça, ou on va vous dire « Allez, je sais pas, sors de ta zone de confort, prends un cours de théâtre. » Non, je peux pas parce que moi, je suis pas très forte à l'oral. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu pouvais pas faire tel métier? Qui t'a dit que tu pouvais pas faire telle activité? C'est que des gens qui vous ont dit à un moment quelque chose, et ça s'est transformé en étiquette. Et c'est un très long travail de se couper de tout ça. Et de se dire, c'est pas vrai. Enfin, si c'est vrai, si à un moment vous avez vraiment peur de quelque chose et que c'est la vérité, let's go les gars. Mais c'est majoritairement des choses que vous avez construites en fonction de ce que les autres vous ont dit de vous-même. Et si vous n'allez pas chercher ce que c'est et prendre le risque de couper ça, de faire un travail sur vous, et bah ça risque pas de beaucoup bouger. Alors que si vous prenez le temps, ça va durer sûrement des années, voire toute votre vie, de vous connaître et d'apprendre à vous construire sans le regard des autres, ce qui est très très dur, et bah vous allez voir que beaucoup de choses vont aller tellement mieux dans votre vie, même vos relations, enfin c'est ce que tu disais toi tout à l'heure.
Bah que c'est, enfin ça rejoint plein d'épisodes qu'on a déjà sortis sur le fait effectivement de couper les ponts avec des amitiés, même en vrai des fois avec des gens de votre famille. C'est sûr que c'est pas parce qu'on a le même sang dans les veines que t'es obligé d'avoir de bonnes relations avec X personnes de ta famille ou même avec tes potes, c'est pas parce que vous êtes amis depuis longue date que ça veut forcément dire qu'aujourd'hui vous devez encore rester ensemble. Si à partir du moment où tu te sens pas naturel avec la personne que t'as en face de toi, bah c'est qu'il y a un couac, et c'est là effectivement que sans doute t'as tous les trucs, toutes tes croyances limitantes, c'est ce que disait Pauline, c'est là où toutes tes croyances limitantes prennent le dessus en mode bah c'est ça que tu mérites en fait et tu mérites pas mieux. Donc il faut pas avoir peur, même si c'est une grande décision à prendre, mais il faut pas avoir peur de couper les ponts avec les gens qui ne vous conviennent pas et qui vous ont fait sentir comme les étiquettes qu'on vous a collées.
Des gens qui vont réappuyer à chaque fois sur... Moi, je sais que j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a créé justement cette chose de... Je suis trop, genre, à chaque fois avec un petit air hautain, me regarder en disant « Ah, toi, c'est vrai que t'es très extrême dans ce que tu vas dire. » Tu sais, passif-agressif. Et pendant des années, j'étais « Non, mais peut-être qu'il faut que je me calme, peut-être qu'il faut que je prenne sur moi, peut-être qu'il faut pas trop que je rentre dedans. » Et en fait, arrivée à 24 piges, je suis en mode « Peut-être faut juste plus que je vois jamais cette personne, bah parce que dès que je la vois, je me sens mal. » Et il n'y a rien de mal à prendre des décisions pour soi, de se dire, que ce soit famille, comme vous avez dit, amis, que ce soit arrêté avec les relations amoureuses à un moment de sa vie, se dire là, ça me fait pas ressortir le meilleur de moi-même, ça me trigger, et tant que je ne suis pas ok avec moi, ça c'est ciao, et je m'entoure de personnes saines en fait.
De ouf. Et je crois qu'on a tout dit
pour
cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, les gars. Dites-nous maintenant.
Envoyez-nous vos témoignages, vos mais anecdotes.
En vrai, et même si vous avez des conseils là, comme ce qu'on se disait. Où nous, voilà, on a pris la décision de déménager dans différentes villes. Si vous avez des conseils, des petites anecdotes ou quoi, nous, comme d'habitude, on adore lire tout ce que vous nous dites. On vous adore. Et on adore communiquer les informations que vous nous donnez à autrui. Voilà.
Et on va revenir rapidement avec de nouveaux épisodes parce qu'on a grave envie de vous parler en ce moment.
De ouf. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée. Un bon midi, une belle soirée.
Un bon décembre.
Bah voilà, ça se trouve, on se reverra pas avant Noël. Je sais pas.
On verra bien. Surprise. It's beginning to look a lot like Christmas.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cumpleaños a felicidad. Oh, mais je vais la télécharger, celle-là, je l'ai pas en ce moment dans mon téléphone.
I wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Merry Christmas.
I wanna wish you a Merry Christmas.